Tous les 2 ans, depuis Lille 2004, capitale européenne de la culture, la ville de Lille et les communes partenaires de Lille 3000 animent le nord de la France autour de thèmes fédérateurs, d'expositions et de spectacles originaux, de fêtes populaires ouvertes au plus grand nombre. Cette nouvelle édition thématique, baptisée Eldorado, prend son inspiration du côté du Mexique, l'occasion de rencontres des artistes de ce pays et leur travail dans différents lieux de la région. Nous nous rendons à la Maison Folie Oisem à Lille pour y rencontrer Betsabe Romero, l'une des artistes de l'exposition US-Mexico Border, présentée dans cette Maison Folie jusqu'au 28 juillet 2019.
Betsabe Romero, artiste mexicaine qui participe à cette exposition US-Mexico Border. C'est une exposition qui a été présentée d'abord à Los Angeles et dans le contexte d'un grand événement où tous les musées de Californie présentaient que des artistes latinos. Alors ça s'appelait Pacific Standard Time, LA-LA, c'est-à-dire latino pour LA. Et c'était la première fois qu'il y avait si tant d'artistes latinos dans les musées en Californie. Et même si la population là-bas, la plupart c'est des latinos, non? C'est la 12e ville habitée par des Mexicains au monde, plus que Guadalajara, par exemple. Bon. Alors, et les commissaires de l'île 3000 sont allés visiter tout cet événement. Ils ont vu cette exposition commissariée par Anne-Hélène Amalet et ils l'ont invitée aujourd'hui. Et je crois que c'est très intéressant parce que c'est une exposition qui parle de la dynamique culturelle entre des métissages et des migrations et de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est assez pertinent dans un contexte où la migration et les frontières sont tellement dures et ils provoquent des choses tellement violentes et terribles dans tout le monde maintenant, non? Alors c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour la culture, pour les artistes et pour tout le monde, non?
Beaucoup de personnes d'origine, on va dire, mexicaines, ne sont jamais allées à Mexico ou au Mexique. Elles sont aux États-Unis.
Ben oui, et surtout parce que quand ils n'ont pas de papier, ils sont indocumentés ou illégales, et ils peuvent pas traverser au Mexique, ils ne peuvent pas aller, ou ces enfants ne peuvent pas aller, parce que s'ils traversent et ils vont au Mexique, ils ne peuvent plus retourner. Alors, c'est une situation difficile. Avant, dans les écoles, il s'était interdit qu'ils parlent espagnol. Alors, c'est pour ça qu'il y a des générations qui se sont mexicains, ils portent la culture mexicaine, mais ils ne peuvent même pas parler la langue, parce que c'était interdit aux États-Unis. Et maintenant, avec Trump, ça devient une politique aussi très endurcie vis-à-vis des Mexicains.
On m'a dit que l'espagnol était vraiment très, en termes de langue, très répandu aux États-Unis. C'est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis?
Oui, bien sûr, oui. Oui, au niveau des populations, c'est c'est surtout la langue, la deuxième parlée, bien sûr.
Donc, votre œuvre ici présentée?
Oui, bah ici, il y a les stalactites et les stalagmites urbaines, parce que moi, je trouve que le migrant suit un parcours beaucoup, beaucoup plus dur et beaucoup plus long que les autoroutes ou que les murs physiques et géographiques qui ont dit les frontières physiques, en fait. Moi, je trouve que ce ne sont pas les frontières que les migrants traversent. En fait, ça répond aux soucis beaucoup plus profonds et aux idéaux beaucoup plus loin et plus grands. Et c'est pour ça que, dans mon cas, l'idéal, c'est vertical, ça va vers le ciel. elle et s'est enracinée et très profondément à la mémoire de chacun, la mémoire culturelle qu'on a, qu'on porte au pays où on va quand on migre. Alors chaque petit pneu, c'est comme cette mémoire individuelle qui est gravée, tatouée dans le corps, dans notre âme, et qu'on reproduit, c'est qu'on porte vers les autres, vers la famille qui reproduit, même si la géographie n'est plus là, même si la terre n'est plus à nous, et les gens ont leur culture pour continuer à avoir une identité. Alors ici, toutes les pneus sont gravées avec l'iconographie précolombienne de toute l'Amérique, même les Indiens de l'Amérique du Nord, parce que là, il y a une frontière invisible pour les Indiens qui sont... Même aux États-Unis, il y a des dynamiques migratoires et des frontières avec eux aussi. Alors, c'est ça. Ce sont les stalactites et les stalagmites urbaines faites à base de petits pneus de caoutchouc.
Comment vous réagissez face aux œuvres de vos collègues artistes qui présentent là, par exemple, ces plumes qui sont aussi un symbole fort?
Pour moi, c'est très intéressant de participer avec des artistes mexico-américains que pour moi, ils portent la culture, mais ils parlent anglais et on ne se connaît pas. Et je crois qu'autant que Mexicains habitant au Mexique, on a une dette avec eux parce qu'on ne les reconnaît même pas autant qu'artistes comme nous, artistes mexicains. Ils ne participent pas de la même façon dans les événements mexicains. Et cette exposition, c'est le contraire. Ici, et se mélanger les Mexicains et les Mexico-Américains. Et je trouve que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est la seule façon d'effacer les frontières politiques qui en fait n'ont pas raison d'exister.
Votre ambassadeur est venu l'année dernière, hein, quand il y a eu un peu la présentation de cet événement qui se profilait. Qu'est-ce qui a changé depuis au Mexique, ou entre le Mexique et les États-Unis, ou entre le Mexique et la France? Est-ce que vous sentez des choses qui ont bougé?
Je crois plutôt aux petits changements, et surtout au niveau d'artiste. Je crois que les changements qu'on peut proposer ou essayer de faire sont micro changements entre les gens, avec le public, au niveau rapport entre différents publics aussi, qui ne sont pas les publics traditionnels d'art contemporain, qui aussi sont très élitistes par soi-même. Alors, je trouve que cet événement à Lille répond aussi à une politique qui cherche ou qui croit à l'art et à la culture comme un moteur de changement social. Et si on est là et on parle de ce qui se passe aussi aux États-Unis et entre les États-Unis et le Mexique, c'est déjà quelque chose de bien.
Donc on est dans un monde où la culture a pris aussi un côté économique. Est-ce que le monde de l'art commercial, d'une certaine manière, hein, les galeries, etc., reconnaissent les artistes mexicains? Est-ce que beaucoup d'entre eux sont connus maintenant et sont cotés, on va dire, d'une certaine manière, sur le marché de l'art?
Le marché de l'art, c'est une autre chose. Là, par exemple, il y a, dans le mainstream, il y a proportionnellement quelques galeries latino-américaines qui participent à tous les grands foires d'art internationales. Et il faut dire que le Mexique, il y a deux, trois, quatre galeries de ce niveau-là, et que 4-5 artistes sont reconnus partout. En général, ils sont des hommes et c'est pas encore les femmes, même si Frida Kahlo, c'est une grande icône dans le monde. Mais ça, c'est dans tout le marché de l'art, la femme est en train de monter à peine. Et le Mexique n'est pas dans le même rythme, malheureusement. Mais bon, moi, je trouve que des fois, c'est pas seulement le marché qui parle des choses les plus importantes dans la culture et dans l'art. Je crois que maintenant, les événements culturels et artistiques se déroulent avec l'espace public, avec des rapports intéressants entre les communautés, dans des lieux où les problèmes politiques sont en train de se passer, d'une façon qui a une visibilité au-delà du marché. Et ça, c'est très important.
Merci d'être venu nous présenter donc votre exposition, votre travail et aussi votre réflexion sur nos échanges culturels et interculturels.
Merci beaucoup, merci à vous.
L'exposition US-Mexico Border est présentée donc dans le cadre d'Eldorado jusqu'au 28 juillet à la Maison Folie de Oisem. Mais vous pouvez aussi découvrir le travail de cet artiste, donc Betsabe Romero, toujours dans le cadre d'Eldorado, à la Maison Folie, l'Hospice d'Avray, à Tourcoing, où elle présente, jusqu'au 26 juillet également, la Route des Plumes d'Or, dans l'ensemble des espaces de ce lieu extraordinaire à découvrir ou à redécouvrir dans le cadre d'Eldorado. Pour en savoir plus sur ces expositions et les autres manifestations présentées en région par l'île 3000, n'hésitez pas à vous connecter sur le site l'île3000.com. Eldorado, en effet, sera l'occasion de découvrir de multiples facettes de l'art et de la musique mexicaine. Pour ma part, aïe aïe aïe, je vous propose un avant-goût des soirées animées auxquelles vous êtes conviés cet été avec un extrait de la chanson « Estoy enamorada » de Yolanda Pérez y Don Cheto.
Bueno!
Yo, is you there?
¿Quién?
Yolanda, su hija.
No, no está, wrong number. No, no ande hablando de esta casa, por favor.
Dad!
¿Qué pasó, hija?
Did somebody call?
No, nadie, un cholo, pero era wrong number.
What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend?
¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía. Con razón en el teléfono hay dos todo el día.
Don't tell me, por favor, que no lo puedes creer. Si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener.
Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía no saben cómo calentar tortillas. Y ahora está de novias, ya quieren andar. Mejor deberían dedicarse a estudiar.
Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos. Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos.
A mí me vale madre si es mi rancho o es el norte. Yo lo único que quiero es que mi hija se comporte. Cada día están más cortas esas faldas que te pones. Tengo miedo que un día de estos salgas en puros calzones.
Tú no me entiendes, Dad. Yo no soy niña, Dad. Yo voy a tener novio and I don't care if you get mad.
Estoy enamorada y mi padre no lo entiende.
No entiendo ni me importa entender. No quiero ver a ese muchacho por aquí.
A él pertenece mi alma y mi mente.
Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre. Sé que sigue saliendo con ese estupi. Y hasta se besaron, no creas que no supí. A ese tipo de cabrón y no le hagas confianza. Te hacen un chiquillo y ya nadie los alcanza.
Pero él es diferente, él no es pandillero. Es muy trabajador y yo por eso lo quiero.
Pues solo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoneando todo el día.
Él solamente toma los fines de semana,
pero los otros días fuma mucha marihuana. Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera, pero es que estás muy chica pa' que ya ni se no viera.
Él sí me quiere, Dad. ¿Que no te acuerdas, Dad? Tú a mi mamá te la robaste cuando ella tenía mi edad.
Pues sí, sí me la robé, pero ella se va a tortear en fogón. Tú puro microwave.
Estoy enamorada y mi padre no lo entiende.
Mira, yo lo único que entiendo es que si le veo por aquí, I kick his cholo ass.
A él pertenece mi alma y mi mente.
Pues yo te lo madreo.
Entonces, ¿sí vas a venir?
¡Yolanda! ¡Cuelga ese teléfono!
God, he's tripping again, man. Nos vemos al ratito, ¿ok?
No quiero que te pase lo que a tu prima Esther. Al papá de sus muchachos nunca más lo volvió a ver. Entiende, mi muchacha, no arruines tu vida. Al rato, como muchas, vas a estar arrepentida. Si encuentras un muchacho que te sepa respetar, te prometo que en tu boda gratis te voy a cantar.
¡Hell no!
¿Cómo que no? ¡Capteme! Nomás tú paga la banda.
Whatever.
Estoy en
tú terca, no sé qué le ves a ese guandajón, yo no sé.
A él pertenece mi alma y mi mente.
Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre frente a frente. Ándale, Yolanda, no quiero alegar contigo. Vete a ayudarle a tu madre.
Ya metí los trastes al dishwasher, Dad.
Entonces, go to your room.
Ya me voy, ya llegó por mí, ¿eh?
¿Quién llegó por ti?
Bye.
Mira, no me digas eso que... Me está dando el oguillo, Yolanda, por favor.